Merci d'être là sur KBFM 92.7, votre radio de proximité en baie de Saint-Brieuc, spécial AROC 2018, avec désormais Marquis de Sade, le fameux groupe rennais qui a effectué son grand retour sur la scène bretonne. C'était à la maison, à Rennes, en septembre dernier.
On n'a pas une démarche qui pense forcément aux fans pour leur faire plaisir, ceux qui n'auraient pas vu. On pense, excusez-nous, mais d'abord à nous. Et en fait, on a pris beaucoup de plaisir, mais ça vient... beaucoup de la réponse du public à Rennes qui a été complètement incroyable. Et par rapport à la date de Rennes, c'est vrai, on devait faire la Cité, malheureusement, qui est une salle qui est fermée à l'heure actuelle. On comprend pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, on pouvait pas faire la Cité. Et on pensait que la Cité marchait encore. Et puis les trans nous ont dit après que c'était pas possible. Et la Cité, il y avait plus de balcon à ce moment-là. Donc en remplissant le bas de la Cité, on pensait faire 700. Et quand on a discuté au départ, commencé à répéter, on pensait pas qu'on ferait... Enfin, 700, ça nous paraissait beaucoup, quoi. Et en fait, quand on a accepté de faire le Liberté en configuration 2000 d'abord, pour essayer de garder une intimité, mais surtout une acoustique qui nous paraissait meilleure que dans la configuration totale du Liberté, en fait, les 700 places ont été vendues en 24 heures, parce que j'avais un œil sur la billetterie. Et alors là, 700 places en 24 heures, c'était vraiment, pour le coup, étrange, quoi. Et donc les 2000 ont été vendus assez vite. En août, les 2000 étaient vendus. Donc il restait 2 mois et on est retourné voir la salle parce que c'est pas une salle dont, encore une fois, dont l'acoustique est facile. Et ça aurait été très embêtant si ça avait été vraiment un concert unique, ce qu'on croyait à l'époque, de faire ça dans une salle qui sonne pas si bien que ça. Et donc on a accepté de limiter à 3000 et là... c'était sold out 10 ou 15 jours avant.
Ben le concert de Liberté, c'était un peu un one shot, quoi. Donc on avait repris les répétitions pendant un certain nombre de mois. On avait réappris à quand même à jouer ensemble après autant d'années. Et puis très rapidement sur scène, on a tous pris beaucoup de plaisir à rejouer ensemble. On a ressenti aussi, on a été porté un petit peu par le public et par une espèce de soutien très vite qu'on a vu dès le deuxième morceau, là où finalement tout s'est enclenché assez naturellement et on a retrouvé très vite nos réflexes d'il y a 40 ans. Quasi en tout cas les réflexes d'il y a 40 ans. Donc c'était plutôt se dire beaucoup de plaisir qu'on a retrouvé à ce moment-là. Et il n'y avait rien de décidé après le concert, c'est-à-dire qu'on avait fait ce qu'on devait faire, ce qui nous paraissait important de faire, encore une fois avec une grande satisfaction. Et c'est que dans un deuxième temps ensuite que effectivement on a eu des sollicitations, des propositions, et puis on s'est dit, pourquoi pas.
Quand Marquis de Sade commence fin des années 70, c'est quoi le contexte musical en France? Vous arrivez avec une musique qu'on qualifie de post-punk. Comment vous êtes reçu à l'époque en France avec la musique que vous faites, qui est plus anglo-saxonne que
française? On commence à trouver nos marques au moment de ce qu'on appelle le post-punk, c'est-à-dire vers 79-80. Enfin, en tout cas, moi, je le vois à peu près là. Mais on a quand même fait nos premières armes dans le punk, à peu près tous, dans des groupes différents. Et 77, 78, c'est vraiment l'entrée en musique pour la plupart d'entre nous. Et l'influence punk, elle est vraiment là, parce que je suis pas certain que des groupes comme le nôtre, s'il n'y avait pas eu les Sex Pistols et ce qui s'est passé à New York à peu près au même moment, je suis pas sûr qu'on aurait fait de la musique, parce que... Bon, à Rennes et comme ailleurs, mais ce que je ressentais, moi, en tant qu'étudiant à Rennes, c'est que... le rock progressif, par exemple, était un peu ce que les étudiants autour de moi écoutaient le plus. Pas tous, heureusement, mais et donc le rock progressif avec le bagage technique assez réduit, que moi j'avais en tout cas quand j'étais encore étudiant en médecine, c'était pas du tout ma tasse de thé, quoi. Et du coup, quand le truc arrive de Londres comme ça, c'est annoncé un peu par le pub rock, c'est-à-dire que on commence à écouter Dr. Feelgood, etc., et on se dit bon ça. Ça fait du bien quand même, la guitare de Wilco Johnson, etc. Et puis la position de Rennes par rapport à l'Angleterre, c'est-à-dire la Brittany Ferries qui a ouvert sa ligne Saint-Malo-Portsmouth. Il y a des gens de la bande qui commencent à aller à Londres régulièrement. Et là, donc, on a les disques, les premiers disques des Sex Pistols en direct, avant même que les radios nationales, entre guillemets, commencent à les passer, quoi. Et donc, le voyage à Londres, il se fait assez naturellement. On se rencontre à ce moment-là tous, Philippe. Après, on va chercher Eric. On a besoin d'un batteur qui cogne. Et donc, on va le débaucher dans un groupe de Saint-Malo. C'est ça? Comment ça s'appelait déjà?
Trash.
Voilà. Et une fois qu'on a monté le groupe, c'est là qu'on a commencé à développer notre style, mais à partir seulement de 78. Donc là, on se dégage totalement des influences Sex Pistols, Clash, etc. Et on l'orne plus vers New York. Et c'est pour ça que je dis que c'est un groupe post-punk, parce que le moment du punk, on était voilà, on balbutiait un petit peu.
Vous faites partie du toute une fin de la naissance d'une scène rennaise. Il y a toute une groupe des gens de ma génération ou des plus jeunes ou même les gens qui ont vécu cette époque-là. Il y a construction d'une certaine mythologie autour de cette scène. Est-ce que vous êtes d'accord avec la mythologie ou est-ce que c'est comme souvent un truc qu'on regarde de loin avec une forme de nostalgie un petit peu révisionniste, ou est-ce qu'à l'époque il y avait vraiment ce truc à Rennes qui était est-ce que vous aviez l'impression d'être dans un truc qui était qui fourmillait et qui allait donner tout ça?
Oui, entre l'impression quand on a 19 ans d'être dans une ville qui est en ébullition, évidemment on a l'impression d'être dans quelque chose de très fort, mais je crois que tous les gamins ont cette impression là avec le recul. Et en voyageant après en Europe, je me suis rendu compte que Rennes, à ce moment-là, a un peu marqué les esprits. Mais c'est difficile, en ayant fait partie de l'aventure, d'expliquer exactement à quoi ça correspond. Il faut savoir autre chose, c'est qu'en dehors de Marquis de Sade et quelques groupes avec lesquels on était liés, il y avait une movida rennaise, c'est peut-être un peu fort, mais il y avait en art graphique, il y avait Jean-Charles Blais, il y avait le Groumelec qui peignait aussi des choses assez étonnantes, il y avait Stéphane Placier qui a fait partie de la bande, donc qui lui était plus dans la mode, qui est parti à Paris après. Donc voilà, c'était un peu pluridisciplinaire. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que quand on est arrivé, certains qui étaient dans le groupe ou autour du groupe, arrivés du centre-Bretagne ou d'ailleurs, la ville appartenait pas tellement à la jeunesse. C'est-à-dire que c'était une ville en 76-77 qui était très bourgeoise, un peu corsetée, et on n'avait pas tellement de lieux dans lesquels sortir, et on restait beaucoup sur les campus. Sur les campus, à l'époque, maintenant pour des raisons de sécurité, c'est plus possible, mais à Villejean, où j'étais, donc Rennes 2, on avait les concerts dans les amphis. On voyait Jacques Higelin régulièrement. Enfin voilà, on avait des concerts dans les amphis. On avait des cinémas d'art et essai périphériques, comme ça, où on pouvait aller, qui étaient vraiment réservés aux étudiants. Et on avait deux boîtes de nuit qui étaient collées au campus, ce qui est complètement improbable maintenant. Et donc, on avait une vraie vie de campus. Et quand on allait en ville, on restait sur notre faim, on trouvait ça trop cher. On trouvait pas d'endroit dans lesquels se retrouver, surtout quand on a commencé à s'habiller un peu comme des punks. On se sentait mal un peu partout. Et ce qui s'est passé avec Marquis de Sade et tout ce qui s'est passé en même temps, c'est un peu la prise d'une ville anciennement bourgeoise par une partie de sa jeunesse. Alors évidemment, il y avait déjà la rue de Saint-Malo où les étudiants un peu hippies, etc., traînaient. C'est toujours ce qu'on appelait la rue de la soif. Mais le reste de la ville était vraiment... était pas fait pour les, j'ai envie de dire, pas fait pour les jeunes, mais c'est un peu ça. Et donc on a commencé à prendre des bars qui nous étaient pas destinés. On a créé nos lieux et l'effervescence rennaise et le côté peut-être un peu mythique qui a traîné derrière, c'est tout ça. C'est la sociologie d'une ville qui change grâce au mouvement punk, en fait, voilà.
Quand le groupe commence, vous avez un style, vous vestimentairement, vous essayez, ça en jette, quoi. Vous êtes assez sapé. Vous avez des références assez précises, Egon Schiele, Klimt. Le groupe est un peu vu comme, en gros, ils se prennent pas pour rien. Est-ce que c'était un malentendu? Parce que c'est souvent ça en France, dès qu'on a un peu des références, ça peut être un malentendu et on peut vite être pris pour des prétentieux. Ça peut vite être l'image qu'on donne du groupe. Est-ce que vous avez eu cette impression-là d'être
con et prétentieux?
Pas con et prétentieux, mais prétentieux. C'est-à-dire que, ça y est, ici, Gustav Klimt.
On l'était peut-être un peu. Après, on est un groupe qui est... Bon, c'est pas si ça veut dire grand-chose, mais on est passé par les études avant. C'est arrivé à plein de groupes anglo-saxons aussi, et on lisait tous beaucoup, on s'intéressait aux expos d'art, etc. Forcément, une fois qu'on commence à faire de la musique, on va pas se couper de tout ça, quoi. Ça a peut-être joué. Je pense que les références culturelles aussi, un peu différentes de ce qu'avaient certains groupes parisiens, alors ceux qu'on suivait moins, comme Téléphone, etc. C'est peut-être le fait de vivre en province, entre guillemets, où on a besoin de se créer des références différentes. Je veux dire, la radio vient pas nous voir, la télé nous filme pas, on est obligé de créer notre propre univers. Et surtout, ce qui nous arrive de Paris à l'époque, que ce soit en termes de musique, bon, je dis encore à part Stinky Toys et quelques groupes, mais qui sont pas très connus, qui vendent pas beaucoup de disques, tout ce qui nous arrive nous saoule un peu. Donc on a besoin de repères ailleurs en Europe. En Allemagne, il y a le krautrock qui nous plaît. En Angleterre, il y a des choses musicales qui nous plaisent. Moi, je suis un grand fan de cinéma italien à l'époque. Il y avait au ciné-club là tous les cycles cinéma néo-réaliste et tout ça. Moi, je suis complètement baigné là-dedans. Et c'est vrai qu'à un moment, Philippe parle beaucoup d'expressionnisme. Moi, le futurisme italien m'intéresse aussi. Et voilà. Alors, c'était peut-être prétentieux, mais on aimait réellement ça. Et surtout, le sentiment d'être européen vient de là, c'est-à-dire de pas se sentir tellement lié à ce qui se passe à Paris et d'aller piquer ailleurs, voir ce qui se passe. Et voilà, cette identité européenne n'est pas un truc médiatique. On la ressentait réellement, quoi.
Vous faites la couve d'actuel, un moment avec les jeunes gens modernes aiment aussi leur maman, c'est bien ça. Vous devenez branché à l'époque,
aime
du coup.
Aiment surtout leur maman.
Vous devenez branché à l'époque. Est-ce que vous avez conscience de devenir un peu ce qu'on appelle un peu vulgairement la branchitude maintenant?
Non, c'est-à-dire qu'actuel, ça a été et un malentendu et finalement quelque chose qui nous a donné du jour au lendemain une exposition très importante. C'est vrai que le de se retrouver du jour au lendemain sur une double page couverture, en plus avec ce concept, les jeunes gens modernes aiment leur maman, donc avec nos mamans, enfin au moins quasiment pour presque tous nos mamans, on dira pas la suite. Ça a été effectivement un truc plutôt marrant qu'on nous a resservi après pendant finalement des années, puisque ce coup d'actuel finalement ça a été on a entendu parler pendant quasiment 40 ans. On n'avait pas forcément par ailleurs la certitude ou en tout cas l'impression d'être pour autant des jeunes gens modernes ou des jeunes gens branchés. Il y avait le concept, il y avait ce truc là qui s'était passé, et puis nous dans nos vies, dans notre quotidien, enfin le changement n'était pas aussi évident que ça, quoi. On était plus entre le concept et puis voilà, on est rentré dans un truc finalement qui nous a un petit peu dépassé.
Et à l'époque, votre public, justement, c'est plutôt des initiés.
C'est plutôt des initiés. L'intérêt, c'est qu'on est passé quand même quasiment du jour au lendemain, en tout cas sur les tournées en question, de salles de 300-400 personnes à des salles de 800. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, les non-initiés, finalement, venaient voir ce groupe. C'est quoi ce groupe qui fait la couverture d'actuel? C'est quoi Marquis de Sade? Donc on va aller voir ce que c'est, quoi. Et là, effectivement, sur les dates en question, tout d'un coup, on est passé quand même dans une autre dimension en termes de capacité de salle.
À l'instant, sur KBFM, des extraits de la conférence de presse de Marquis de Sade donnée le week-end dernier lors du festival Arock de Saint-Brieuc. On écoute Marquis de Sade dans le mag avec le single Back to Cruelty.
Make up for the teacher's life.
Club FM.
Spécial à Rock.